Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Un mari trompé, un amant, un ami meurtrier, Jeanne Juira a gardé son secret pendant 7 ans. Mais va-t-elle réussir à sauver sa tête devant la cour d'assises de Haute-Saône? Le journaliste de l'Est républicain, pourtant habitué au prétoire, n'en revient toujours pas quand il faut relater la première journée d'audience de la cour d'assises de la Haute-Saône le 21 novembre 1953. Par moments, on pouvait se demander si nous étions dans une enceinte de justice ou dans une salle de spectacle. Et si l'ombre de la pitoyable victime n'avait pas plané sur les débats, c'est plus une critique de spectacle qu'un compte-rendu d'assises qu'il aurait fallu écrire. Les accusés ont parfaitement joué leur rôle et le public, d'abord ému par le récit du drame, puis indigné par le comportement des accusés, a fini par prendre fait et cause pour l'accusation. Et si l'affaire Juira suscite autant de réactions et d'émotions, c'est qu'elle réunit nombre d'ingrédients qui peuvent émoustiller même les plus blasés. À commencer par les personnages, je vous les présente un par un. Il y a d'abord Roger Marconneau. Le journaliste le décrit comme un individu sans caractère, sans volonté, sans conscience, un véritable pantin désarticulé qui a agi sans véritable mobile. Le public qui ne mâche pas ses mots l'a déjà jugé tout de suite comme l'idiot du village. Mais il s'agit quand même d'un idiot dangereux qui a abandonné occupation et foyer pour se retrouver un soir avec du sang plein les mains. Deuxième personnage, son complice, Adrien Millet. Un amoureux transi, entraîné par une passion irrésistible de celle, à ses yeux, qu'on ne rencontre que dans les hebdomadaires spécialisés. Et enfin, il y a Jeanne Juira. Là, le journaliste résume en une phrase. Elle n'a pas tué, mais c'est pire. Dans ses mains, ses deux comparses n'ont été que des jouets. C'est elle qui a conçu le projet de faire disparaître son mari, c'est elle qui a fixé le jour de l'exécution, c'est elle qui a armé le bras du tireur, et c'est enfin elle qui a eu assez d'ascendant sur son entourage pour lui imposer un silence de plus de 7 ans. Les faits relèvent aussi du roman de gare. C'est la guerre. Puis l'occupation. Adjudant à la retraite, Gaston Juira, pour échapper aux Allemands, décide de quitter sa petite ferme de la Madeleine dans le territoire de Belfort. Il part se réfugier en Auvergne, où il ne tarde pas à rejoindre la résistance. C'est là qu'il rencontre son futur assassin, Marconneau. De retour au pays le 1er mai 1945, il apprend que sa femme a offert ses faveurs à un homme de 14 ans son cadet, Adrien Millet. L'adjudant n'était pas décidé à fermer les yeux. Il gronda, il cria, il implora. Ce n'était plus un foyer, c'était un enfer. Le ménage à trois vécut ainsi 13 jours. L'un des deux hommes devait disparaître. Ce fut lui. Le 13 mai, une dispute éclate, plus violente que d'habitude. L'ancien sous-officier, excédé, casse systématiquement tout ce qui lui tombe sous la main, sous les yeux de sa femme impassible et de la bonne quelque peu effrayée. Sur ces entrefaites, Millet arrive, il retrouve Jeanne et décide d'un plan. Il flatte et convainc facilement Marconneau de passer à l'acte. Le mari vient de s'endormir, il ne reste qu'à le frapper à la tête avec un pilon de bois. Les complices cachent aussitôt le corps dans un trou de mine profond de 4 mètres, dans un escarpement boisé. Ils sont deux autres, dont la petite bonne a assisté au spectacle, et ils jurent de garder le silence. Dans le village, les habitants ne s'inquiètent pas outre mesure de la disparition de l'adjudant que l'on croit reparti en Auvergne. À moins qu'il ne soit allé cuver son vin dans un bois et qu'une congestion l'ait terrassé dans la nuit. Le cadavre sera finalement trouvé par un bûcheron, quasiment 3 mois après, le 25 juillet. L'Est républicain rappelle que, très sûre d'elle, la veuve éplorée y va alors de son petit numéro, n'hésitant pas même à simuler une crise de nerfs au beau milieu d'un flot de larmes, du plus bel effet. Et il faudra tout de même 7 ans aux enquêteurs pour acquérir la certitude que cet accident était en réalité un crime des plus sordides. Le 10 septembre 1952, le commissaire Bornik de la PJ de Strasbourg réussit enfin à obtenir les aveux de la bande. Vient ensuite le temps du procès, nous sommes en 1953, 8 ans après les faits. Le journaliste de l'Est républicain décrit « Le défilé des témoins permet au tribunal et surtout au public d'apprécier à sa juste valeur la moralité des familles Millet et Juira. Tout le monde s'est tu parce que chacun tenait à conserver amant ou maîtresse. Avec un brin de chantage, chacun est resté sur ses positions pendant 7 ans. Le procès donne lieu à des joutes oratoires, entre autres entre Millet l'amant et Jeanne Juira la veuve, qui se rejettent les responsabilités. Le public, qui s'amuse franchement, applaudit. Jusqu'au moment où le procureur de la République intervient. Ce procès a trop fait rire. Il est bon que la crapulerie soit établie au grand jour pour l'édification des masses. Ce n'est pas une raison de s'en abreuver, comme c'est le cas ici depuis ce matin. Il termine son terrible réquisitoire implacable. Pas de demi-mesure pour la femme. La pitié n'a pas sa place ici. C'est elle, la grande coupable. Elle a entraîné 2 hommes dans son crime. Elle mérite le châtiment suprême. Et si vous vous laissez aller à lui trouver une excuse, ne descendez pas en dessous des travaux forcés à perpétuité. Toute autre peine serait une preuve de faiblesse. Le procès change de ton, le public se tait, les accusés perdent de leur superbe. Jeanne finit même par pleurer lors de la plaidoirie de son avocat. Après avoir souligné son rôle dans la résistance, celui-ci avait en effet su trouver pour la défendre des accents profondément humains, résume l'Est républicain. Le jury l'entendra, les accusés bénéficieront de circonstances atténuantes. Jeanne Juira écopera seulement de 20 ans de travaux forcés et ses complices de 15 ans. C'était Les Grands Crimes de l'Est et c'était une histoire écrite par Jérôme Estrada. Si vous voulez lire le résumé du procès à l'époque, on vous a mis le lien de l'article associé dans la description du podcast. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et surtout le prochain. Dans 2 semaines, on aborde en effet une affaire qui a bouleversé la France entière dans les années 50, l'affaire du curé Duruf. Meurthe-et-Moselle. À dans 15 jours.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.